présentent maintenant les deux intervenants de ce soir. D'abord, à ma gauche, et c'est lui qui commencera, Philippe de Marcy, de Centrale Lille, qui est né en 1948. Il n'est pas ingénieur, il est philosophe et psychosociologue de formation. Il démarre sa carrière comme enseignant, puis participe à la création du département de formation humaine de l'ICAM, c'est, je crois, l'Institut catholique des arts et métiers, hein, avant d'en prendre la direction pour le développer et de contribuer très largement à la diffusion de ce type d'enseignement dans une dizaine de grandes écoles et de structures d'enseignement du nord de la France. Il a créé en 1994 une société de conseil, de coaching et formation, d'accompagnement des personnes et des projets dans les entreprises de toute taille qui se prénomme EOL. Il est chargé de cours à l'école centrale de Lille et intervient dans le cycle de formation permanente à HEC. Je présente maintenant le second intervenant, Philippe Despincé, qui est directeur des études à l'école centrale de Nantes. Lui est né en 1966. Il est ingénieur de l'école centrale de Nantes, 1990, option robotique. DEA, diplôme d'études approfondies automatique et informatique industrielle, doctorat de l'Université de Nantes et de l'École centrale de Nantes en génie mécanique, donc là, l'aspect de la recherche, et de 1994-2008, maître de conférence à l'École centrale de Nantes, et depuis 2008, professeur des universités à l'École centrale de Nantes. Voilà, vous retrouverez tout le détail des CV sur le site internet, donc je ne m'attarde pas. Je donc donne tout de suite la parole à Philippe de Marcy pour une intervention de 25 minutes à une demi-heure, et puis ensuite Philippe Despincé et pour la même durée, et ensuite, bien comme d'habitude, vous pourrez leur poser vos questions. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup, Yves Michaud. Je vais donc commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous inaugurons donc ce soir, comme ça vient d'être dit, ce cycle de l'UTLS en partenariat avec le groupe des écoles centrales et qui traitera donc de cette question de l'ingénieur aujourd'hui. Notons d'emblée que ce titre est bien présenté sous la forme d'une question. Car si le concept d'ingénieur apparaît au XVIe siècle, son emploi moderne qui s'est développé à partir du XVIIIe pour se complexifier à l'envi, au point que le terme même d'ingénieur est devenu un peu flou. Entre fonctionnel et opérationnel, entre spécialiste et généraliste, il recouvre aujourd'hui plus de 300 métiers, de la recherche en laboratoire aux ateliers en entreprise, en passant par tous les lieux où l'on conçoit, construit et fait tourner des machines pour répondre aux besoins de la science, de l'industrie, ou de la société en général. Il recouvre également des fonctions, des positions hiérarchiques, publiques ou privées. Ce constat nous amène naturellement à chercher ensemble ce qui caractériserait l'ingénieur, à trouver le « ce sans quoi on ne saurait être ingénieur ». Tout au long des 9 conférences de ce cycle, les principaux aspects de ce métier seront abordés. De notre côté, nous allons donc nous pencher ce soir sur ce que l'on peut appeler le « penser en ingénieur ». Nous constaterons que cette question concerne à la fois un mode de pensée qui serait spécifique et son application à toute la population concernée. Cette méthode de pensée spécifique repose à la fois sur la maîtrise des sciences hypothético-déductives et sur la capacité à les utiliser pour réaliser des applications concrètes dont la perfection semble se jouer de la complexité qui les a fait naître. Il faudra séparer, ou au moins distinguer, les domaines particuliers et partiellement communs des savants, des ingénieurs et des techniciens. Mais il apparaîtra aussi que dans le développement de ses fonctions, l'ingénieur ne s'est pas toujours préoccupé de sa place dans les réseaux sociaux. Et c'est une autre caractéristique de la manière d'être de l'ingénieur qui amène cette curieuse ignorance qu'ont par exemple les médias de cette catégorie de citoyens qui ont pourtant des choses précises à dire par définition. Précises mais apolitiques, et ceci explique peut-être cela. Tel l'alchimiste devant son athanor, l'ingénieur serait transparent derrière le soin qu'il apporte à la réalisation de ses missions et ne faisant jamais d'extrapolation abusive, se serait emprisonné dans les limites de sa propre rigueur, car, par méthode, il a pris l'habitude de ne parler que ce dont il est certain et qu'il peut démontrer par déduction ou par induction contrôlée. Cette hypothèse mériterait certainement débat, tant elle pourrait être riche, riche d'enseignements pour envisager l'avenir de cette corporation dans son pays, son continent ou dans le monde. Nous y reviendrons. En fait, devant ce foisonnement, nous considérons que le terme d'ingénieur est un paradigme écartelé. Écartelé par son histoire, par son développement, par le grand nombre de populations différentes qu'il recouvre et par l'évolution de l'environnement, du savoir et de la société. Il y a tant de pièces dans la maison de l'ingénieur qu'elle risque de n'être qu'un dédale incommode. Trop de sens tue le sens, les linguistes nous l'ont montré. Mais paradoxalement, cette surcharge sémantique qui correspond fidèlement à une surcharge de l'appellation est gênante pour une première étude, mais devient particulièrement éclairante lorsqu'on y regarde de plus près. Cette énormité au sens propre du mot traduit bien le manque et la marque caractéristique d'une profession devenue transparente dans la société à cause de sa concentration exclusive sur sa mission principale, résoudre en permanence des problèmes dans le cadre précis où ils sont posés. Nous nous pencherons bien entendu sur ces méthodes de pensée et du travail qui ont fait et qui font encore la grande fiabilité de cette population en matière de résolution de problèmes, de réactivité et d'amélioration continue. Nous verrons dans le dernier moment de notre causerie ce qu'est devenu cet utilisateur de la géométrie, dominateur de la matière qu'il soumet à ses désirs par ses méthodes et ses techniques, bricoleur de génie, visionnaire du développement industriel, soudain plongé dans un nouveau monde désenchanté, prenant conscience de la finitude du monde physique et de ses ressources, confronté à la fin du déterminisme et du réductionnisme qui étaient, nous le dirons, les deux mamelles de la période industrielle européenne. Oui, nous verrons le dilemme devant lequel se trouve l'ingénieur, prenant conscience du rôle particulier qu'il peut revendiquer dans la société ou condamné à rester dilué dans les organisations dont il ne serait plus guère que le technicien, limité à sa paillasse, son atelier, son ordinateur. Auparavant, mon ami Philippe de Pincé, directeur des études de Centrale Nantes, va nous aider à mettre un peu d'ordre dans cette notion d'ingénieur qu'il va définir, dont il donnera les grands traits de l'histoire et des méthodes de formation par lesquelles l'étudiant devient ingénieur. Philippe, vous avez la parole.
Merci Philippe de Merci pour cette introduction. Je vais tenter une définition de la pensée d'un ingénieur, en l'abordant non pas par les modes de pensée, mais par les méthodes de pensée, les méthodes de travail et les aptitudes propres à l'ingénieur, en observant notre sujet, l'ingénieur. Alors, le terme ingénieur pouvant décrire l'homme, la fonction et ou le métier sous différents points de vue. Je me permets de dire tenter, car, comme je vais vous le montrer au cours de mon exposé, il n'existe pas un ingénieur type. Et il n'est pas aisé de proposer une définition de ce mot qui recouvre l'ensemble des fonctions et des métiers exercés par des ingénieurs. Et, comme Philippe de Marcy vous l'a montré, le rôle d'un ingénieur n'est pas figé dans le temps. Il est en constante évolution. Les différentes visions exposées nous permettront de mettre en évidence certains invariants dans les méthodes de pensée et de travail d'un ingénieur. Après une définition de l'ingénieur, il me paraît important de définir au préalable le sujet de notre étude et une description rapide de l'origine des formations à la française. Cette description sera volontairement brève. Une description plus détaillée des formations vous sera proposée dans le cadre de la conférence portant sur la formation des ingénieurs aujourd'hui, continuité, comparaison et mutation. Donc, après cette définition et cette brève description, j'aborderai successivement la formation des ingénieurs et les activités pédagogiques mises en place dans les écoles. Ce point de vue permettra de définir ce que nous attendons d'un ingénieur en termes de compétences et d'aptitudes. Le « nous » est pris ici d'un point de vue certification. Quel référentiel doit satisfaire une formation pour avoir l'autorisation de délivrer le titre ? En France, la délivrance du titre d'ingénieur par un établissement est soumise à une accréditation par un organisme, la Commission des titres d'ingénieur, plus communément appelée CTI. Qu'est-ce que nous, ingénieurs, entreprises, attendons-nous de cette formation ? En résumé, un ingénieur, pour faire quoi ou pourquoi faire ? Le dernier point développé concernera l'ingénieur vu par lui-même. Je m'appuierai sur un certain nombre de témoignages d'ingénieurs qui ont été publiés dans l'ouvrage « La République de l'ingénieur » de 2003 de Robert Germinet et de Patrick Arismendi. Le Larousse définit l'ingénieur comme une personne que ses connaissances rendent apte à occuper des fonctions scientifiques et techniques actives en vue de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler des travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. Nous notons que l'ingénieur est donc appelé à occuper des postes à responsabilité, des postes de responsabilité au sein de l'entreprise. Il participe notamment à des activités de management technique et bénéficie d'une relative autonomie dans sa fonction. Cependant, cette définition n'inclut pas les aspects ressources humaines, de gestion, de finances, qui souvent relèvent de la responsabilité de l'ingénieur dans sa fonction quotidienne. Elle se limite, cette définition, aux aspects attachés aux fonctions purement scientifiques et techniques. La Commission des titres d'ingénieur propose une définition plus précise en trois points. La première définition est circulaire et définit l'ingénieur comme un cadre, scientifique et technique, compétent pour encadrer, diriger et mener un travail d'ingénierie. Donc cette définition nécessite de définir l'ingénierie. Donc l'ingénierie consiste à réunir, mettre en œuvre et développer les compétences nécessaires à la réalisation d'objets, de systèmes ou de services répondant en général à un besoin ou à un marché d'un milieu compétitif. La deuxième définition porte sur le métier exercé par l'ingénieur et sur les savoirs associés. Le métier de l'ingénieur consiste à poser et résoudre de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes. Problèmes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre au sein d'une organisation compétitive de produits, de systèmes ou de services et éventuellement de leur financement ou de leur commercialisation. À ce titre, l'ingénieur doit posséder un ensemble de savoirs techniques, mais également économiques, sociaux et humains, reposant sur une solide culture scientifique. Finalement, ces deux définitions sont complétées par les moyens que l'ingénieur doit coordonner et par ses interactions avec l'entreprise. L'activité de l'ingénieur mobilise des hommes et des moyens techniques et financiers, souvent dans un contexte international. Elle prend en compte les préoccupations de protection de l'homme, de la vie et de l'environnement, et plus généralement du bien-être collectif. Elle contribue à la compétitivité des entreprises, notamment en technologie, et à leur pérennité dans un cadre mondialisé. Son activité reçoit une sanction économique et sociale. Il apparaît donc difficile, voire illusoire, de définir l'ingénieur par un poste ou par une fonction occupée au sein d'une entreprise. Sa position est maintenant diluée, diffuse, car elle regroupe une grande diversité de situations dans des secteurs très différents et qu'elle évolue au cours de sa carrière. Rôle essentiellement technique en début de carrière, la progression naturelle l'amène à occuper des fonctions de management, puis des postes de direction en milieu ou fin de carrière, dans des domaines aussi divers que l'industrie, la finance, l'enseignement supérieur, la biologie, la recherche. Deux conférences au sein de ce cycle apporteront un éclairage, d'une part sur les relations entre les ingénieurs et les sciences de la vie, et d'autre part sur les relations entre les ingénieurs et la recherche. Personnellement, en réponse aux multiples interrogations d'étudiants concernant leur choix de stage, d'enseignement électif, d'options, et sur l'influence de ces choix sur leur future carrière professionnelle, je leur dis qu'il y a autant de définitions de l'ingénieur, donc fonction et rôle au sein de l'entreprise, que d'ingénieurs en activité. Ils seront, ces étudiants, futurs ingénieurs, l'ingénieur qu'ils décideront d'être, l'ingénieur qu'ils créeront au sein de l'entreprise. L'ingénieur, en résumé, apparaît comme une personne qui intervient au sein de l'entreprise, à l'intersection des fonctions techniques et de management, dans un objectif de réalisation, création, conception, réalisation, mise en œuvre. C'est une personne qui possède de solides compétences techniques et scientifiques, qui est capable de diriger des hommes et qui possède des aptitudes à la communication. Une des étymologies donc du terme d'ingénieur est dérivée de l'ancien français ingénieur, constructeur d'engins de guerre avec l'influence de Saint-Génier. L'ingénieur décide celui qui construisait et inventait des machines de guerre, des ouvrages de fortification. Ainsi, Vauban et Léonard de Vinci étaient ingénieurs. Ce terme a été ensuite associé aux ingénieurs militaires et des ponts et chaussées liés à l'État. La référence à des ingénieurs civils en France est apparue au début du XIXe siècle. L'école des mines, l'école des arts et métiers, le conservatoire des arts et métiers. Lors de sa création en 1829, l'école centrale des arts et manufactures, l'école centrale de Paris, affichait 4 objectifs de formation. Elle souhaitait former 4 types de professionnels. Premièrement, former des ingénieurs civils capables de construire des usines et de modifier les anciennes. De conseiller les manufacturiers, chacun d'une branche spécifique. Elle devait former des directeurs d'usines qui devaient recevoir une éducation générale sur les diverses sciences nécessaires à l'industriel. Ils étudiaient toutes les industries, mais approfondissaient l'industrie particulière à laquelle ils voulaient se livrer. Nous retrouvons dans ces deux premières définitions, ces deux premières catégories d'ingénieurs, enfin de métiers à former, les notions de généraliste et de spécialiste. Un développement de cette distinction entre ingénieurs, donc généraliste et spécialiste, sera réalisé dans le cadre de la conférence « Le généraliste, le spécialiste et l'expert ». Le troisième métier, c'était former des capitalistes instruits capables de choisir avec intelligence leurs spéculations, d'en surveiller la marche et d'en écarter les chances qui pouvaient compromettre leur succès. De former des dirigeants capables d'apprécier l'environnement dans sa globalité afin de prendre la bonne décision pour la marche de l'entreprise. Et finalement, le dernier métier était de former des professeurs qui devaient porter dans les départements un enseignement dirigé dans le sens de celui qui est adopté à l'école. Ces professeurs se devaient, par leur position même, obligés de se vouer à l'enseignement en faveur des contremaîtres et des chefs ouvriers. Donc nous voyons qu'à l'origine, on donnait aux ingénieurs dans leur formation une vision de l'entreprise dans sa globalité, et en ce sens, ils étaient par nature généralistes. L'évolution rapide des sciences et l'apparition, le développement de nouvelles techniques ont vu apparaître un besoin de spécialisation et donc la création d'écoles à finalité plus affirmée et donc spécialiste. Cette multiplication de formations nouvelles a parallèlement contribué à l'évolution de la perception du métier de l'ingénieur au sein de l'entreprise et plus généralement au sein de la société. Plus nombreux dans les entreprises, occupant des postes plus variés, on a insisté à la disparition de l'homogénéité du corps ingénieur vu par la société. Pour citer quelques chiffres, et afin d'étayer cette diversité, au 1er janvier 2008, il y avait 208 écoles d'ingénieurs habilitées par la CTI à délivrer le titre d'ingénieur au travers de 504 formations différentes. À cela s'ajoute qu'à l'intérieur d'une même formation, avec une introduction plus importante d'enseignement électif, de parcours différenciés, les possibilités de parcours différents se multiplient. Au sein d'une même promotion, deux étudiants peuvent ne pas avoir suivi une formation similaire. Ingénieur, terme flou désignant une multitude de métiers, de fonctions, ne permet pas une description précise du rôle de l'ingénieur. Et communiquer l'information à une tierce personne que nous sommes ingénieurs ne le renseigne pas sur notre métier et nos fonctions dans l'entreprise. Ce terme donne cependant une information porteuse de sens aux personnes issues du sérail. Elle renseigne sur le niveau de formation suivi par la personne possédant ce titre. Donc, en effet, la grande majorité des ingénieurs en activité a suivi un parcours de formation similaire en 5 ans, comprenant 2 années de formation en classe préparatoire, pouvant être intégrés au sein de l'établissement dispensant le titre, et de 3 années d'école proprement dit. Les 2 années de classe préparatoire inculquent à l'étudiant une capacité de travail importante, une agilité intellectuelle et une capacité à l'abstraction et, indirectement, une forte tolérance au stress et une grande rigueur. L'objectif de ces classes préparatoires est d'accroître le niveau de connaissance des bacheliers dans différents champs disciplinaires de manière à les rendre aptes à suivre une formation en grande école. La formation dans les écoles approfondit des domaines particuliers, donne aux étudiants une culture générale et technique et leur offre un cadre propice au développement de certaines aptitudes qui leur permettront d'être efficaces dans leur emploi. Je vais me permettre d'insister sur 3 aspects. Le premier est relatif au goût de la perfection et une grande puissance intellectuelle. Les écoles forment l'étudiant à aborder une problématique sous toutes ses facettes, à bien la cerner et à identifier les faiblesses. Le futur ingénieur doit développer la capacité à identifier et résoudre les problèmes, manipuler et interpréter des informations et des données disparates, appréhender et quantifier les risques pour, au final, proposer et évaluer des solutions et retenir la meilleure alternative. Le deuxième aspect concerne les méthodes de pensée. Après avoir appris lors des classes préparatoires à réfléchir en analysant un problème en entier et attentivement, l'école leur donne par la mise en œuvre de pédagogies spécifiques des clés pour apprendre à apprendre tout au long de leur carrière. Un ingénieur est une personne qui se doit d'être curieuse, qui sait faire preuve de créativité, d'esprit d'initiative, avec en plus un certain sens du défi. Les modes de travail qu'il découvre, qu'il teste dans l'environnement de l'école, dans le cadre de multiples activités, scolaires ou non, participent au développement de ses aptitudes personnelles, curiosité, créativité, esprit d'initiative, et lui permettent de développer des compétences génériques, telles que le travail en équipe, la persuasion. Ces compétences qu'il développe au sein de l'école, de sa scolarité, doivent de plus être transférables afin de lui permettre d'évoluer tout au long de sa carrière, voire de changer de domaine d'études. Ce point sera abordé lors de la conférence « Le réengineering, comment passer d'un domaine à l'autre ». Le dernier aspect que je souhaite aborder relatif aux facultés de l'ingénieur qui se développe au sein des écoles concerne le travail en commun, le travail en équipe. Un ingénieur doit savoir s'appuyer sur ceux qui savent. Le travail d'ingénieur se déroule majoritairement au sein d'équipes pluridisciplinaires et nécessite des modes de fonctionnement permettant un travail collaboratif efficace et l'émergence d'une intelligence collective. Ces notions feront également l'objet d'une conférence dédiée. L'environnement pédagogique et extrascolaire présent dans les écoles permet donc aux étudiants de développer entre autres les aspects que je viens de vous décrire. Trois activités particulières concourent au développement de notre futur ingénieur et lui permettent d'élaborer ses méthodes de pensée et de travail. Les projets, développés lors de travaux en équipe, souvent en relative autonomie, ils lui permettent d'appréhender les problèmes liés au travail de groupe, le management afférent et le travail pluridisciplinaire. C'est un lieu, ces projets sont un lieu de rencontre de compétences scientifiques et de management. Le deuxième point concerne les stages en entreprise. Ces stages permettent à l'étudiant de s'éveiller concrètement à son futur métier. C'est un moment privilégié pour aborder le milieu de l'entreprise en s'affranchissant des contraintes hiérarchiques. C'est également, dans la hiérarchie des séjours en entreprise, une école d'humilité, avec un premier stage orienté généralement découverte, connaissance du monde de l'entreprise, suivi d'un stage ingénieur plus technique, pour aboutir sur le travail de fin d'études lors duquel l'étudiant devra faire preuve d'autonomie et de prise d'initiative. Dans la troisième catégorie d'activités, je regroupe l'ensemble de celles extrascolaires réalisées sous le contrôle des étudiants. Les nombreux bureaux, bureaux des élèves, bureaux des sports, bureaux des arts, qui lui offrent la possibilité d'aborder les questionnements relatifs aux responsabilités administratives et financières et également les juniors entreprises qui lui apportent la notion de responsabilité contractuelle. En conclusion de cette partie, un ingénieur possède une connaissance et une compréhension d'un large champ de sciences fondamentales et une maîtrise des outils et des méthodes de l'ingénieur, entre autres une capacité d'analyse et la capacité de synthèse associée. Des aptitudes pour prendre en compte des enjeux professionnels et travailler dans un contexte international. Des aptitudes pour prendre en compte et mettre en œuvre les principes du développement durable et les valeurs sociétales. Je vais clore mon exposé par une vision de l'ingénieur par les ingénieurs eux-mêmes. Vision synthétique élaborée à partir de témoignages d'ingénieurs publiés dans l'ouvrage « La République des ingénieurs ». Donc l'ingénieur dans l'entreprise satisfait un certain nombre d'exigences. Exigences vis-à-vis de la satisfaction du client, de la qualité du travail et de sa bonne intégration dans l'équipe. Il occupe généralement et de plus en plus tôt des responsabilités importantes. Il n'y a pas de profil de carrière type mais des palettes de situations. Une constance, cependant, peut être observée dans l'évolution de sa carrière, sa mobilité. Mobilité pas tant géographique que fonctionnelle au sein de l'entreprise. L'ingénieur est également un guide de pensée et d'action, un meneur d'hommes réunissant au sein d'une même personne un concepteur, l'esprit d'innovation, un créateur, l'audace, un entrepreneur, le bon sens, un mot l'ingénieur et un constructeur. Les qualités suivantes reviennent souvent dans la perception que les ingénieurs ont d'eux-mêmes. Elles peuvent aussi contribuer à définir l'esprit d'ingénieur. La capacité à résoudre des problèmes, qui regroupe les capacités de compréhension, d'analyse et de décision. La polyvalence, sa capacité d'adaptation à des sujets différents, son efficacité et sa sagacité. Le goût du changement, l'ingénieur s'étiole dans un travail routinier. L'ingénieur est un métier de développement et en développement. Finalement, l'appréhension de la complexité, l'ingénieur doit rendre simple ce qui est compliqué, rendre lisible des fragments épars d'intelligibilité. Avant de rendre la parole à Philippe de Marcy, qui va développer les méthodes de pensée mises en œuvre par l'ingénieur dans sa réflexion quotidienne, je souhaite attirer votre attention sur un constat que Philippe de Marcy analysera également. Après avoir été au XIXe siècle le médecin des usines, avoir participé pleinement au développement de l'industrie, je me permets, pour marquer cette place importante de l'ingénieur dans la société, de reprendre la locution prononcée en 1886 par le président de la Société des ingénieurs civils. Le bienfaiteur, le producteur de celui qui travaille, le vrai philanthrope de notre époque, c'est l'ingénieur. C'est lui, enfin c'est vous, qui peut améliorer les méthodes de production. C'est vous qui créez et perfectionnez la machine pour permettre à l'homme, en multipliant sa force à l'infini, de faire un travail considérable, sans effort, à bon marché et bien rémunéré. C'est vous qui concevez et dirigez les travaux réputés impossibles autrefois et qui s'exécutent maintenant avec une certaine facilité. Il n'y a pas de travaux aujourd'hui dans lesquels l'ingénieur ne vienne au secours de l'ouvrier par l'intervention de la science appliquée à l'industrie, lui permettre de produire davantage en se fatiguant moins. Je suis convaincu que ce sont les ingénieurs, par leur science et leur amour du travail, qui ont depuis un siècle le plus contribué au développement intellectuel et au bien-être de l'humanité. Donc l'ingénieur, aujourd'hui, est présent sur l'ensemble du cycle de vie des produits et des services, de la recherche au marketing, en incluant l'industrialisation, les finances, en prenant en compte l'ensemble des principes de développement durable et les valeurs sociétales. Il est par conséquent un acteur, l'acteur incontournable du développement de la société. Or, l'ingénieur, malgré cette omniprésence sur l'ensemble du cycle de vie des produits et des services qui fait notre quotidien, est étonnamment absent de la scène publique, absent du débat public. J'en ai fini avec ma partie et je vais rendre donc la parole à Philippe qui va finir cet exposé.
Merci beaucoup. Bon, nous allons maintenant donc aborder la question des méthodes de pensée et de travail qui seraient propres à l'ingénieur. La dernière partie de ce qui vient d'être dit nous montre un ingénieur marchant sur ses deux jambes. L'une théorique, sa formation aux sciences dures, l'autre pratique, sa capacité à réaliser concrètement, depuis la modélisation du plan à la mise en place de l'objet construit. Ceci reste fondateur de la structure de pensée de l'ingénieur. C'est sous l'égide de la connaissance scientifique et technique que l'ingénieur pose et résout des problèmes concrets, s'adapte aux complications inattendues, les considérant d'ailleurs comme des péripéties normales d'un processus de réalisation. Dans la société, il est effectivement situé à la fois du côté du scientifique qui modélise et du technicien qui réalise. Pour approcher les méthodes de pensée, nous allons avoir recours à l'aide de l'épistémologie pour comprendre les processus utilisés par le cerveau ingénieur, si vous me passez l'expression. Nous y découvrirons peut-être une explication de l'efficacité, mais aussi des limites de ce type de pensée. Il y a deux types de pensées construites dans la tradition classique, la déduction et l'induction. Nous allons observer leur fonctionnement et voir quelle utilisation en ont fait les ingénieurs. Alors, déduction et induction sont positionnées toutes deux à partir d'un mot latin, d'un verbe latin qui veut dire à la fois commander ou diriger suivant le contexte. Et alors, la déduction, vous voyez, c'est commander à propos de quelque chose. Et l'induction, c'est commander à l'intérieur de quelque chose. Le champ de définition de la déduction et de l'induction, comme d'ailleurs la plupart des éléments qui les caractérisent, sont complémentaires, c'est-à-dire n'ont pas grand-chose à voir en termes de méthode. Le champ de définition de la déduction est un champ clos. Vous pouvez vous figurer, par exemple, un carré ou un rectangle. Débrouillez-vous, en tout cas une figure fermée. Et c'est à l'intérieur de cette figure que la déduction s'opérera. Pour illustrer, être plus clair, on pourrait par exemple se souvenir de la phrase du syllogisme le plus célèbre, « Tous les hommes sont mortels ». Eh bien, vous voyez que la première chose que l'on fait, c'est de limiter la chose dont on va parler. On va parler des hommes et du fait qu'ils soient mortels. Alors que dans l'induction, c'est exactement le contraire. Dans l'induction, le champ de définition est ouvert. On sait d'où l'on part, on ne sait pas où l'on va. On pourrait par exemple dire, en suivant Prévert, que l'oiseau est un porte-plume. Le déroulement du raisonnement, du côté de la déduction, sera toujours du général au particulier. On partira de quelque chose qui était à l'intérieur de ce champ de définition clos dont nous venons de parler, et puis on va descendre tout doucement vers la conclusion, enfin tout doucement, de manière implacable, de manière absolument logique, sans rien laisser au hasard. Du côté de l'induction, c'est exactement le contraire. On partira du particulier et on ira vers le général. On utilisera des métaphores là où la déduction utilisera des syllogismes ou des argumentaires logiques. Alors, de la métaphore, il faut peut-être dire quelque chose, puisque nous sommes ici dans un cénacle d'ingénieurs, en tout cas pour ingénieurs. La métaphore est une sorte de tour de passe-passe linguistique qui consiste à passer d'un concept à un autre en utilisant quelques points communs de ces deux concepts. Nous en prendrons un exemple tout à l'heure. Mais lorsque j'ai déjà cité le petit poème, la petite image de Jacques Prévert à propos de l'oiseau, vous avez bien compris que quand on dit que l'oiseau est un porte-plume, nous ouvrons nos stylos et nous pouvons écrire nos poésies. À l'intérieur de la déduction et de l'induction, il y aura des outils internes. Les outils de la déduction seront « or » ou « donc », seront « si » ou « alors ». On peut remarquer que les outils internes sont chargés de relier entre eux les différents éléments qui vont permettre de passer du général au particulier. Ainsi fonctionne la déduction. Tandis que les outils internes de l'induction, comme je viens de le dire, ce sont les points communs qui existent entre les différentes idées qui me viennent spontanément et qui, en fait, me sont venues grâce à ces SEM, disent les linguistes, ces unités de signification minimale communs entre deux concepts et qui me permettent de passer de l'un à l'autre. Penchons-nous maintenant sur la méthode de raisonnement de la déduction et de l'induction. La méthode de raisonnement de la déduction, c'est l'analyse. Alors si on fait un peu d'étymologie, on va découvrir quelque chose de très intéressant. Analyse vient de deux mots grecs, le mot « ana » qui grossièrement veut dire « le long d'eux » dans le même sens que, et le mot « lucis » qui veut dire « la destruction ». Et donc l'analyse, effectivement, est une méthode de connaissance qui consiste à séparer un ensemble pour le comprendre par partie. L'exemple le meilleur que je connaisse étant la dissection. Dans la dissection, effectivement, je peux analyser successivement chacun des prototypes que je veux regarder. Par exemple, dans la dissection, je peux regarder les tissus musculaires, les tissus nerveux, les tissus osseux, etc. Mais je signale que le sujet de l'observation est mort. Enfin, il vaut mieux pour lui. Du côté de l'induction, au contraire, c'est l'analogie qui sera utilisée. Et l'analogie, si je reprends aussi le processus d'étymologie, je m'aperçois qu'il y a « ana », toujours le même sens, donc le long de, ce dont je suis en train de parler, et le mot « logos », alors qu'on traduira ici, parce que « logos » est un des mots les plus compliqués de la langue grecque, alors on traduira ici simplement par « la science de », la parole à propos de. Donc l'analogie, c'est avoir une parole à propos de ce dont on parle. Autrement dit, on utilise l'analogie quand on ne connaît pas précisément la chose dont on parle. Et c'est une méthode de connaissance où l'on progresse par comparaison métaphorique. Alors maintenant, après une telle envolée, il faut donner des exemples. Eh bien, du côté de l'analyse et du côté de la déduction, on peut donner ce syllogisme hyper célèbre, donc Socrate est mortel parce que tous les hommes sont mortels. Et donc je pourrais dire, chacun de vous ici étant un homme, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Du côté de l'analogie, on pourrait prendre un exemple, et j'ai envie de vous soumettre ce petit poème de Victor Hugo qui dit que la faucille d'argent au champ des étoiles, lui. Eh bien, tout le monde a compris, et comme je ne vous donne pas la parole, ça va être pratique, tout le monde a compris qu'il s'agit de la Lune. Mais la Lune n'a pas été nommée. On a parlé de la faucille d'argent au champ des étoiles. Alors, la faucille ressemble à la Lune par sa forme et sa couleur. Et la Lune fait penser à un champ, puisqu'on parle du champ des étoiles, et donc les étoiles, les petites lumières des étoiles, sont donc comparées chacune à un grain de blé, enfin non pas un grain de blé, à un épi de blé, qui formerait un champ. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir quels sont les domaines d'application de ces deux méthodes de connaissance. Eh bien, le champ d'application de la déduction, ce sont les sciences hypothético-déductives dont nous avons parlé, et en particulier les mathématiques et la physique. Tandis que, vous l'aurez compris, du côté de l'induction, c'est plutôt la poésie et la créativité qui sont les champs d'application. Il ne faudra évidemment pas confondre ces deux méthodes dans un raisonnement, ça s'appellerait une extrapolation abusive, mais nous pouvons en profiter pour nous surveiller quand nous parlons, car lorsque nous disons « or » et « donc », sommes-nous certains que le champ de définition dont nous parlons est bien clos ? C'est une question que je laisse à votre appréciation. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour voir les travaux de Claude Bernard relier les deux manières de procéder dans sa mise au point de la méthode scientifique expérimentale résumée sous le sigle OHERIC, OHERIC, pour observation, hypothèse, expérience, résultats, interprétation et conclusion. Dans ce processus, le recours à la démarche inductive sera intégré à la mécanique déductive. Je prends conscience en parlant que peut-être cette explication est insuffisante. Je vous renvoie donc à vos dictionnaires favoris. L'ingénieur, depuis plusieurs siècles, s'est spécialisé dans la pratique de la déduction et le recours aux sciences hypothético-déductives. Pendant des décennies entières, la seule voie d'accès à la formation de l'ingénieur, c'est le couple maths-physique avec un peu de mécanique. Les classes préparatoires à la formation des ingénieurs occupent encore aujourd'hui plus de la moitié des élèves. Il est d'ailleurs amusant de constater que l'habitude de considérer ces formations comme de simples moyens de sélection finit par occulter la première qualité de cette formation, qui consiste précisément à donner aux élèves une capacité à poser et à traiter correctement des problèmes complexes, bref, une compétence indispensable et qui pourra rester acquise durant toute la vie. On ne badine pas avec la rigueur scientifique. C'est cette rigueur que l'on retrouve traditionnellement dans toutes les productions des ingénieurs. Mais il ne faudrait pas que le recours à une formation théorique de très haut niveau occulte l'autre versant de la compétence de l'ingénieur. Une compétence pratique à résoudre les problèmes, à se baser toujours sur l'observation des réalités pour trouver la meilleure voie de réalisation d'un projet donné. C'est au XIXe siècle que cette manière de penser et de savoir triomphera. Les ingénieurs sont à l'époque représentés par des instances qui plaident toutes pour la diffusion d'un savoir spécifique qui pourra bien marier les deux versants du savoir appliqué des ingénieurs, un regard théorique pour résoudre un problème technique. À cette époque, d'ailleurs, les revues destinées aux ingénieurs présentent des réalisations mises en forme dans cette logique. Le savoir de l'ingénieur est alors considéré comme le seul moyen d'instruire et d'initier à la compétence industrielle. Les ingénieurs du XIXe siècle deviennent professeurs pour instruire les ouvriers dans les usines. On croit au progrès social comme on croit au progrès du savoir. Il faut citer comme exemple les cours du soir du Conservatoire des Arts et Métiers qui proposaient à la fois un enseignement pour les ouvriers et une sorte de formation permanente pour les ingénieurs. Ce mouvement va se généraliser partout en France et il en reste d'ailleurs de grandes traces aujourd'hui. Mais il nous faut remarquer que cette manière de penser, de réagir et de traiter les problèmes a fini par occuper tout le champ mental de notre ingénieur. Et cette croyance, cette foi en la science, s'est étendue au-delà du seul champ de la pratique professionnelle des ingénieurs pour influencer le domaine du comportement social, voire même de la morale. On retrouve, formulées en clair, les attentes de rigueur, de discrétion, de consécration au travail dans les formations des premiers ingénieurs. Le travail et les relations sont traités dans la même logique que les déductions opérées dans la résolution des problèmes. L'ingénieur aime la démonstration. Il a pris l'habitude d'être rigoureux et il tâche de le rester dans tous les aspects de sa vie. Rappelons-nous que la pratique de la déduction se fait dans un champ de définition clos. On ne se permet pas d'allégations gratuites. Lorsque l'on utilise l'induction, c'est dans le cadre strict de la recherche d'hypothèses qui seront ensuite vérifiées et remises dans le cadre rigoureux de la déduction. Pour prendre un exemple plus concret, la mise au point d'une recherche libérée du cadre classique de référence que l'on trouve dans le moderne brainstorming ne sera mise au point que dans les années 1940 et reste néanmoins parfaitement conforme à ce que nous venons de décrire. Si dans la première partie de cet exercice brainstorming, les participants laissent libre cours à leur imaginaire dans une recherche suivant les lois de l'induction, telles que nous venons d'en parler, les éléments collectés sont ensuite classés, triés, sélectionnés dans une approche parfaitement déductive en vue de trouver la meilleure solution au problème posé. Cette rigueur méthodologique devient complètement une rigueur comportementale dans la conduite des hommes de l'entreprise, puis dans la morale, puis dans l'éthique professionnelle et enfin dans l'éducation. On trouvera là une des causes de la constitution progressive de familles d'ingénieurs, puisque dans les familles, cet esprit basé sur les raisonnements des sciences dures devient une sorte de modèle universel inconscient qui paraît donc absolument naturel aux membres de ces familles, favorisant ainsi les enfants dont la manière de penser et de vivre correspond si bien aux méthodes qui seront apprises dans les classes scientifiques. À ce moment du raisonnement, il s'agit là de rien d'autre que d'un modèle efficace et respectable de culture. On remarquera alors que cette grande croyance dans le progrès social par le progrès des savoirs appliqués dans l'industrie s'est littéralement cassé les dents sur la progressive constitution d'une classe d'ouvriers qui contestera cet ordre social où le terme de paternaliste, de paternalisme finira par ne connecter que négativement. Cet échec de la volonté de partage du savoir dans l'entreprise comme vecteur principal de la cohésion sociale est un exemple douloureux des limites du recours universel à la science appliquée à la vie des citoyens. Nous pouvons maintenant examiner les limites de cette forme de pensée. Cette tentative de réduire l'expérience à des structures démontrables en suivant l'ordre des logiques déductives ne prépare pas à vivre des domaines plus mouvants, des relations affectives et sensorielles, d'une part, pas plus que les questions de la confrontation politique qui ne se plaisent ordinairement que très peu dans cet univers clos. Comment en est-on arrivé à cette ignorance? Nous venons de prononcer le verbe « réduire ». Ce mot est très important pour rappeler que la science a orienté toute l'idéologie et la manière de voir le monde des acteurs du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. On peut associer Nicolas Copernic au XVIe siècle, René Descartes au XVIIe et Pierre-Simon Laplace à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle comme les principaux représentants d'un rationalisme réductionniste et déterministe qui devient le référentiel de la société à cette époque. Point n'est besoin de rappeler l'influence absolue de la vision du monde d'une époque sur les comportements culturels et sociaux de ses contemporains. Issu du XVIe siècle, le rationalisme cartésien deviendra un des piliers des croyances des siècles suivants. Souvenons-nous du discours de la méthode, où le grand homme se proposait d'utiliser, dans la conduite des idées, ces longues chaînes toutes simples que les arpenteurs et les géomètres utilisent pour la conduite de leurs travaux. Derrière cette image se construit la réalité du réductionnisme. Pour comprendre le monde, il suffira de diviser les éléments complexes en éléments simples, de manière indéfinie, jusqu'à la résolution des problèmes posés. Le tout n'est plus rien d'autre que la somme des parties. C'est la période de la science triomphante, déterministe, réductionniste et rationaliste qui commence et qui va profondément configurer les sociétés occidentales. Souvenons-nous, pour ne citer qu'un exemple, flagrant de cet état d'esprit, que Lord Kelvin, inventeur de l'échelle des températures qui porte son nom, déclarait à la fin du XIXe siècle que la physique avait donné une description harmonieuse et a priori complète du monde. Cette science de la déduction est l'outil principal de ce règne de la confiance absolue dans la capacité de la science à réduire tous les mystères et celle de la technique à mettre en œuvre un progrès continu qui amènerait un bonheur certain. C'est dans ce contexte culturel que l'ingénieur vivra l'apogée de son type favori de pensée, grand metteur en œuvre de la foi en la science et en la technique pour un environnement maîtrisé. Il était important de rappeler ce contexte pour mieux apprécier les désillusions que vont subir tous les tenants de ce type de pensée au XXe siècle. Les deux guerres mondiales ont mis à mal l'idée que l'industrie préparait le bonheur de l'homme, puisqu'elle est devenue aussi une industrie de guerre. Cette réalité a fait se disloquer les idées généreuses dont nous parlions plus haut. Sur le plan de la progression du savoir, l'arrivée de l'incertitude dans le champ de la science finira par mettre à mal les visions du monde précédentes, puisque l'on utilise souvent le principe d'incertitude de Werner Heisenberg pour marquer ce nouveau bouleversement dans les référentiels du savoir. Souvenons-nous que ce prix Nobel de 1932 avait découvert 5 ans plus tôt que la simple observation d'une particule élémentaire l'a modifiée et qu'il serait donc impossible d'en connaître à la fois la position et la vitesse. À partir de là, tout le corps des sciences et des savoirs va subir une profonde mutation qui n'est pas encore terminée aujourd'hui. Pour ne citer qu'un exemple rapide mais tellement puissant, les contemporains n'ont peut-être pas réalisé à quel point l'invention de la logique des systèmes transforme radicalement la manière de concevoir le monde qui était encore il y a peu de temps dans la croyance en une logique des causes. Sans approfondir trop longuement, il faut tout de même signaler comment ce bouleversement est profond. La logique des causes était verticale, hiérarchisée. Elle procédait de cause en conséquence, depuis la cause première. On peut d'ailleurs citer comme exemple la définition qu'Aristote donnait de Dieu comme le premier moteur immobile. On pourrait d'ailleurs parfaitement soutenir que les racines du déterminisme sont là. Face à elle, la révolution de la systémique est complète. Son fonctionnement change de modèle, puisqu'un élément causant un autre peut tout à fait subir à son tour l'influence de ce même élément en retour. C'est le principe du feedback. Rétroaction en français. Le référentiel n'est plus vertical, il devient circulaire. Les organisations et les entreprises sont toutes structurées aujourd'hui sur le modèle matriciel. La logique des processus a balayé l'ancienne organisation des tâches et des pouvoirs. Mais que sont devenus les ingénieurs dans ce maelstrom ? Sur le plan social, ils ont peu à peu perdu le pouvoir qu'ils avaient acquis dans les 2 siècles précédents, comme nous l'avons évoqué. Le pouvoir dans les entreprises est d'abord passé aux mains des commerciaux et du marketing lorsque les développements de la puissance industrielle ont entraîné une concurrence de plus en plus féroce entre les firmes. Puis, dans la même logique de concurrence, les financiers ont pris ce pouvoir qu'ils semblent détenir solidement en ce moment. Comme si cela ne suffisait pas, la désindustrialisation est venue accentuer cette dilution d'un statut gagné par le travail et par les compétences difficilement remplaçables, Les ingénieurs se sont alors retrouvés dans des positions de plus en plus techniques pour la grande majorité. Quant aux élites, elles sont passées à la finance et à la gouvernance, mais ne se définissent plus par rapport à leur formation d'ingénieurs. Les écoles elles-mêmes ne recrutent plus aussi facilement qu'auparavant, parce que les métiers d'ingénieurs n'attirent plus autant non plus. De plus, l'évolution dont nous parlons a donné une place très importante à des écoles où les ingénieurs ne sont plus des généralistes et adaptables à tout type de problématiques, mais spécialisés dans une technique particulière. Est-ce la fin de l'ère des ingénieurs? Nous ne le croyons pas. Les élèves ingénieurs contemporains ont internationalisé leur formation et ont parfaitement intégré la révolution médiatique et numérique. Les questions portant sur la compréhension de l'environnement ne sont plus ignorées dans les formations. Et plus que jamais, les nouveaux sujets parlant d'énergie nouvelle, d'épuisement des énergies fossiles et de préservation de l'environnement ont besoin des scientifiques, mais aussi et beaucoup des ingénieurs. Sur la question de l'épanouissement personnel de l'ingénieur, de plus en plus de formations incluent dans leur programme des formations à la psychosociologie, à la communication, voire même au développement personnel. L'arrivée des neurosciences dans le champ du savoir offre peut-être d'ailleurs une excellente opportunité à des scientifiques et praticiens pour entrer de plein pied dans le champ des connaissances appliquées à la personne. Nous voulons terminer en proposant deux choses qu'il reste à faire aux ingénieurs pour retrouver une place dont la société a besoin. L'une concerne les relations au monde des médias et l'autre concerne l'évolution des associations d'ingénieurs pour qu'elles prennent en main le dossier de leur nouvelle définition. Pour la première, le travail est en route. Mais il est clair que les relations entre les journalistes et les ingénieurs n'ont jamais été simples, parce que les objectifs sont différents. Il faut tout de même remarquer que les ingénieurs ne sont pas trop souvent invités des plateaux de télévision, et la présence de quelques grands ténors, fort utiles et appréciés du public, ne saurait cacher ce manque très profond. Sur la question de la redéfinition éventuelle du nom et des fonctions proprement dites des ingénieurs, le problème est profond et complexe. Faut-il garder un seul nom qui risque de cacher de plus en plus mal des références qui tracent de profondes frontières entre les différents types d'ingénieurs dont certains sont réputés beaucoup plus puissants que les autres? Il ne nous appartient absolument pas de tenir ce débat, ni de décliner ici trop d'exemples qui seraient sans intérêt dans cet exposé, et très dangereux. Mais il est un exemple clair, c'est que la formation par alternance, par exemple, n'est pas la même que la formation par les classes préparatoires avant l'intégration par concours dans une école classique. Nous ne décrions absolument pas la formation par alternance, qui représente à bien des égards un grand progrès et qui répond à des besoins précis et connus. Mais nous invitons les instances représentatives à s'attacher à ce travail pour donner du sens à ce paradigme que nous avions qualifié d'écartelé au début de cet exposé. La société a besoin du savoir, du savoir-faire et du savoir-être de cette catégorie de personnes. Plus leur nom sera clair et visible, plus leur talent pourra servir non seulement l'amélioration des machines et des techniques, mais aussi la clarté et la fiabilité des exposés médiatiques, trop souvent basés, sans eux, sur des approches beaucoup trop subjectives, voire exclusivement politiques. Sans lyrisme décousu, l'on pourrait appeler de nos vœux cette grande réflexion pour le bien des ingénieurs et pour celui de la société qui a besoin d'eux, qui sait, peut-être comme un nouvel honnête homme. Je vous remercie de votre écoute.
Alors, nous passons aux questions. Une première ici, tout de suite en bas. On vous passe un micro, hein. Ici au milieu. Manifestez-vous les autres pour que ça aille vite, hein. Allez-y, monsieur.
Bonjour.
Allez-y, c'est bon.
Bonjour, j'espère que vous me permettrez quelques réactions inductives à chaud, n'ayant pas eu le temps d'appliquer un raisonnement déductif pour éliminer ce qui pouvait être imprécis dans mes idées. Donc, d'abord, juste une remarque, vous avez parlé de l'arrivée des sciences de la vie. J'espère que, notamment la conférence de demain, n'oubliera pas que les écoles d'ingénieurs agronomes s'en occupent depuis un siècle, quand même, au moins. Et que, certes, l'arrivée des sciences de la vie dans les écoles généralistes est un défi important qui, est, d'une certaine mesure, menace notre hégémonie, mais en même temps est probablement un acquis très important pour l'ensemble de la communauté des ingénieurs. Pour revenir à ce qui a été dit, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition qui a eu lieu il y a 2 ans sur le saint-simonisme, parce que beaucoup de ce que vous dites renvoie à l'influence quand même très importante qu'a eu non pas les communautés les plus sectaires du saint-simonisme, mais ceux qui ont abandonné ces lubies pour s'intégrer dans l'industrie. Et je pense, il me semble qu'en termes d'histoire des idées, aller étudier précisément ce qui relève du saint-simonisme avec à la fois ses intuitions très intéressantes sur la société industrielle et en même temps sa légèreté théorique, sa fragilité, ses ambiguïtés, ses contradictions, ça peut me paraître utile. Deuxièmement.
Est-ce que vous pouvez poser une question, s'il vous plaît ?
Pardon ?
Est-ce que vous pouvez poser une question ?
Oui, je voulais vous demander. Est-ce qu'il n'est pas important de faire une différence entre l'ingénieur et le cadre, dans la mesure où, par exemple, bon, bien sûr, tous les cadres ne sont pas ingénieurs, mais aussi tous les ingénieurs ne sont pas cadres. L'exemple typique étant Boris Vian, qui est un ingénieur et qui évidemment n'est pas un cadre. Et dans la description que va présenter Monsieur Lunette, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Il y a notamment la façon dont vous semblez ignorer le rôle de la prépa, non seulement de fournir effectivement une formation intellectuelle forte, mais aussi d'uniformiser et de dresser l'esprit et la société. Il se joue cette question, est-ce que l'école d'ingénieurs doit former des cadres ou former des ingénieurs ? Voilà.
Merci, parce que je crois que ça a été assez long.
Je vais juste répondre par rapport à l'ingénieur et le cadre. J'ai donné une définition par rapport à la finalité principale de l'ingénieur, telle qu'il avait été défini au début, c'était de fournir des cadres pour l'entreprise. Et donc une finalité, je dirais, initiale dans la formation des ingénieurs, c'est bien de fournir des cadres pour l'entreprise. Alors, on a toujours des personnes, si vous avez pris le cas de Boris Vian, je peux vous en citer d'autres parmi nos étudiants qui arrivent à l'école, qui ont des capacités ou des facilités pour apprendre et qui se posent des questions parce qu'ils ont d'autres, je dirais, intérêts dans une vie extrascolaire. Est-ce que je reste cadre dans l'entreprise ou est-ce que je profite de mes capacités naturelles pour aller faire autre chose? Vous avez cité Boris Vian, il y a également Antoine qui est chanteur, j'ai également des étudiants qui font de l'art dramatique. Voilà, c'est on les forme, mais une fois qu'ils sont formés, soit ils vont dans l'industrie et généralement ils sont cadres, ils ont une position de cadre, soit ils décident de faire autre chose et là c'est leur vie propre.
Question suivante.
Oui, alors là, je me présente, je suis ingénieur chimiste INSA de Toulouse, de la promotion 1979. J'ai fait 8 ans de chimie, je ne suis pas en plaisanterie en chimie. Je vous pose juste une question. Est-ce que les autorités industrielles et politiques ne nous prennent pas pour des cons? Excusez-moi. Moi, j'ai trouvé 12 moyens, pas un, 12, d'avoir de l'énergie gratuite. Je m'explique, un truc. Vous prenez 2 cuves, 90 cm de diamètre, 3,50 m, concentrique. 95 cm, il y a une épaisseur de 2 cm. Vous coulez du plomb liquide. Le plomb est liquide à 328 degrés, d'accord? Il faut dépenser un cube de méthane 9 mètres pour réchauffer ça, une seule fois pour toutes. Le méthane liquide, la poussée d'Archimède, vous êtes d'accord? C'est le poids du volume du liquide déplacé. À 11,3 kg par litre, ça fait une force de 25 tonnes, pas 25 kg, 25 000 kg, un char Leclerc 1914-18, à 3,50 m de hauteur à la cuve. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, c'est un peu con, je trouve ça. 25 tonnes, vous mettez une crémaillère en descente avec un moteur électrique, le temps que ça descende, ça vous fait tourner un moteur électrique de 1,20 m, vous avez de l'énergie gratuite électrique. À 800 ampères, vous avez une quantité colossale d'énergie. quand ça descend et quand ça remonte, vous avez du quoi. Attendez. Excusez-moi. Vous avez compris le principe. Le Archimède, c'est des millénaires que ça existe. Personne n'y a pensé. 328 degrés, c'est hyper fastoche. Bon, ça dépense une énergie conséquente, mais une fois pour toutes, calories réfugiées, on est tranquille. Ça, c'est éternel, ça fait un courant colossal. Deuxièmement, je finis. Deuxième moyen pour vous prouver que j'ai trouvé 12 moyens. Par exemple, 12. Vous prenez un contrepoids de 400 kg, une corde, une poulie, et en haut, un réservoir vide. Vous détendez le CO2 liquide, le CO2 gazeux, il se met en neige carbonique. La densité d'un neige carbonique, c'est 1,19 kg par litre. Ça fait un cube de 70 cm de glace carbonique très lourd qui va entraîner le contrepoids pour remonter.
Déjà, bon, alors vous voulez en venir où exactement?
Ce que je veux dire,
excusez-moi.
Je suis pas bien.
Êtes en train de nous faire du borision, hein, là.
Le Brésil est en train de s'enfoncer là. Vous avez parlé des biotechnologies. Ils sont en train de virer les champs.
Bon, écoutez, je crois que là, vous ne faites pas du tout une question. Vous faites une intervention qui ressemble beaucoup, en pas trop bon, à du Boris Vian. Hein.
Moi, je suis une dernière chose. Le CO2 atmosphérique. Ils veulent
Écoutez, je crois qu'il faut que vous rendiez la parole parce que là, vous n'avez pas posé de questions et vous développez je ne sais quoi.
Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai trouvé tous les moyens d'avoir l'énergie gratuite.
Bon, écoutez, je crois que merci beaucoup. C'était très bien. Allez, en haut, en espérant que ce sera une vraie question.
Allô ? Bonjour. On vous entend. Pour reprendre une partie de votre définition, donc vous définissez donc l'ingénieur comme une personne technique, mais en plus avec des compétences managériales pour pouvoir encadrer des gens. Moi, je me rends compte au niveau de mon entreprise qu'au départ, les ingénieurs commencent, ils sont très techniques. Ensuite, ils montent à des responsabilités. En général, ils font de l'encadrement de projet, donc du management de projet. Et parfois, ces responsabilités sont telles qu'ils ne font plus de technique. Ils s'occupent uniquement de manager des gens et de gérer des budgets. Alors, comme dans votre définition, vous avez à chaque fois pris le soin d'inclure une partie technique, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont toujours des ingénieurs puisqu'ils n'en font quasiment plus ?
Allez-y. Oui, alors, c'est une remarque qu'on ne peut plus fonder. Alors on n'a pas pu développer ça pour des raisons de temps, parce que le sujet est tellement vaste, mais il est vrai que c'est un chemin presque classique, ça, chez les ingénieurs. Il y a de très très nombreux ingénieurs, je pense même on pourrait même dire une moitié des ingénieurs, qui en fait n'aspirent qu'à quitter les domaines de la technique, mais à cause des choses que nous avons développées. Comme si la technique qui ne permettait pas la possibilité d'une évolution de carrière suffisante devenait un lieu de passage obligé, mais surtout un lieu de passage. Donc, je n'ai rien de nouveau à dire par rapport à ce que vous avez dit, sauf que c'est également l'expérience que je constate dans les entreprises. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose ?
Non, c'est tout à fait. C'est un peu ce que je disais lorsque, sur ma dernière partie, l'ingénieur vu par lui-même. Il commence comme ingénieur scientifique et technique, il aspire à des tâches de management pour finir, je dirais, à des postes de direction, de manière de plus en plus précocement. Et certains ingénieurs, il y en avait un sur un des exposés, sur une de ses remarques, il disait pour lui un ingénieur qui, passé la quarantaine, n'est pas à des postes de direction, s'est trompé quelque part ou n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Donc c'est peut-être un peu fort, parce que je considère qu'on peut très bien faire une bonne carrière en restant même scientifique et technique très tard. C'est en fonction des aspirations de tout un chacun.
Ici, à droite.
Oui, à votre avis, pourquoi les ingénieurs du CEA n'ont pas encore réussi à résoudre le problème du traitement des déchets nucléaires ?
Je vais faire une non-réponse. Je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. J'ai dit que les métiers de l'ingénieur étaient très très vastes. Je ne me permettrai pas de m'hasarder à une réponse d'un domaine que je ne maîtrise pas. Et je ne maîtrise pas celui-là. Je suis.
Et alors de mon côté, comme je ne suis pas ingénieur, je vais oser une réponse. Voilà. Ce problème-là, auquel je ne connais rien, je n'entends rien. Sauf que la question est excellente. Et elle est excellente parce qu'elle met le point sur quelque chose dont nous avons parlé et qui me semble fondamental. C'est cette relation dialectique très difficile entre la capacité technique de réalisation d'une part et la volonté politique d'organisation du pays de l'autre. Et évidemment, vous avez posé cette question dans cet esprit que je partage.
En haut, merci.
Bon, Bonsoir, Paul Arnoux. Je veux vous demander tout simplement, est-ce que d'après vous, l'intelligence artificielle est possible? Et comment elle est possible? C'est un procédé, c'est une invention d'ingénieur, mais alors, là c'est le monsieur là sur la droite, enfin à gauche de l'estrade, de l'estrade, à qui j'adresse la question. Il a développé des choses intéressantes sur la déduction, l'induction. Mais lorsque vous dites, par l'analyse, c'est-à-dire la dissection, enfin, vous avez employé le mot dissection, lorsque vous dites, il faut disséquer un problème, ou une institution, une réalité sur la longueur, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est autre chose que les membres d'un tout? C'est le tout plus quelque chose de plus ample. Est-ce que c'est à la fois l'induction, est-ce que la déduction et l'induction, ça se recoupe les deux à la fois? Voilà. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle ne résulte que d'un procédé de déduction?
Non. L'intelligence artificielle utilise bien sûr les capacités d'un corps à être disséqué en plusieurs, enfin d'un corps, d'un concept, à être disséqué en plusieurs parties simples. Mais l'intelligence artificielle utilise aussi autre chose. Elle utilise, vous avez entendu parler par exemple des procédés neuronaux. Vous savez, le fait d'entrer une information dans une boîte noire, de la faire ressortir avec un go-to à l'entrée de la boîte noire et de faire ça un nombre indéterminé de fois et de constater au bout de beaucoup de fois que l'information a changé. Il y a dans l'intelligence artificielle un espoir de découvrir de nouveaux modèles de fonctionnement des structurations des informations. Et je crois que on ne peut pas en parler largement ici, mais je crois que pour vous donner une piste, si vous concentrez sur les spécificités de l'intelligence artificielle, vous allez rencontrer la logique systémique dont nous avons parlé, enfin que nous avons évoquée, et vous la rencontrerez beaucoup plus que la logique cause-effet que nous avons décrite plus en détail dans les processus de la déduction et de l'induction. Car dans l'intelligence artificielle, un objet peut effectivement devenir à la fois cause et conséquence de son propre mouvement. Donc j'en resterai là, monsieur, mais je partage donc votre remarque.
Ici. Bonjour. Très rapidement, j'ai bien suivi votre développement sur l'analyse, l'induction, la déduction, etc. J'ai peut-être un petit manque. Est-ce que vous placez quelque part l'intuition dans le mode de pensée de l'ingénieur et comment vous l'articulez avec le reste?
C'est une super question parce que elle n'a justement pas été traitée et peut-être que j'aurais dû le dire. J'y ai réfléchi longuement, d'ailleurs on y a réfléchi longuement tous les deux avec Philippe Despincé. Et en fait je ne l'ai pas cité parce que dans le temps qui nous était imparti, nous voulions plutôt insister sur le caractère rigoureux de la science, j'oserais dire d'avant, enfin je ne veux être méchant avec personne, mais en tout cas de la science qui semble se terminer. Et nous voulions insister là-dessus parce que la formation de l'ingénieur et la pratique de l'ingénieur est basée d'abord sur ce type de science. Mais si vous interrogez n'importe quel inventeur, d'ailleurs ingénieur ou non, parce que votre question dépasse, vous le savez, le cadre strict de l'ingénieur, l'intuition joue toujours son rôle. Le tout est de savoir à quel endroit on met ce rôle. Je vous ai parlé de la relation entre induction et déduction, justement pour montrer qu'une des manières dont l'intuition pouvait être définie, mais je vous préviens que la définition que je vais donner est extrêmement réductionniste, elle aussi, et j'en suis désolé. On peut dire que l'intuition, dans le processus que j'ai décrit, elle est juste une déduction inconsciente. Il y a des éléments qui se sont mis ensemble, je ne sais pas forcément comment je les ai mis ensemble, je ne peux pas forcément l'analyser, mais de fait, le résultat qui est devant mes yeux est intéressant, et comme je n'en connais pas l'origine, je pourrais devenir mystique à ce propos. Où je pourrais devenir systémicien. Voilà. Donc, je peux juste dire que vous avez eu bien raison de parler de ce mot d'intuition que nous aurions dû mettre dans notre exposé. Voilà, je n'irai pas plus loin ce soir.
On prend encore une ou deux questions. Donc, il y en a deux.
C'est pas une question, c'est un appel, s'il vous plaît, à la formation de plus en plus d'ingénieurs. Je suis d'une secte qui s'appelle l'ingénierie. Nous en manquons de plus en plus. Vous avez parlé d'analogie. On a formé beaucoup d'ingénieurs chinois, indiens et extrême-orientaux dans nos écoles et nos entreprises. Maintenant, ils font de l'analyse, c'est-à-dire que maintenant, ils inventent et ils viennent nous battre à Abu Dhabi, où on avait les ingénieurs de Total, d'Areva, d'EDF, etc. Je suis extrêmement anxieux, donc s'il vous plaît, de plus en plus d'analyse et boostons la formation d'ingénieurs. Merci d'avance.
Merci. Merci beaucoup. Dernière question.
Moi, j'ai deux questions assez brèves. Vous avez distingué dans votre exposé l'ingénierie technique et le pouvoir des financiers et du marketing. Ça veut dire que vous considérez que l'ingénierie financière ne relève pas de la grande famille intellectuelle des ingénieurs. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, concernant le rôle de plus en plus interdisciplinaire des ingénieurs aujourd'hui et de moins en moins technique. Dans les prépas, vous avez rappelé que c'est surtout une sélection faite sur les mathématiques et la physique. Alors, est-ce qu'ensuite, quand on intègre une école d'ingénieurs, il y a une part importante, moins importante qu'avant, plus importante qu'avant, consacrée à l'enseignement des sciences humaines, à la polytechnique, il y a des cours de philo, je crois. Est-ce qu'il y a des cours dans ces matières-là dans toutes les écoles d'ingénieurs?
Alors, pour la première question, je ne sais pas si c'est une question, et ça m'arrange que ça n'en soit pas une, parce que je suis complètement d'accord avec votre remarque. Je n'entrerai pas dans le détail qui est très très intéressant, mais extrêmement plein de piquants, parce que les types d'ingénieurs qui s'intéressent à la finance appartiennent à quelques écoles assez connues, qui se disputent peut-être la première place dans les grandes entreprises pour s'occuper précisément de la finance. Maintenant, sur le fond technique de votre question, bien entendu, la finance est un sujet qui est aussi complexe et mérite autant le savoir de l'ingénieur que les autres matières plus techniques. Donc, j'accepte votre remarque. Pour la deuxième question, elle est effectivement intéressante. Je crois que, je ne sais plus si c'est mercredi que Monsieur Maury... Mercredi, Monsieur Claude Maury intervient du CETI, qui est le Centre d'études des techniques de l'ingénieur, je crois.
Une commission du titre de l'ingénieur.
Oui, c'est ça. Et il va parler de la formation dans les écoles d'ingénieurs, et il abordera cette question. En tout cas, très rapidement, je peux dire que on a commencé la formation humaine des ingénieurs dans certaines écoles. Il y a déjà pas mal de temps, mais ça s'est développé depuis en gros moins de 20 ans. Alors vous parliez des cours de philo de Polytechnique. Il n'y a pas que des cours de philo, et je ne parlerai pas que de Polytechnique. Il y a de plus en plus dans les écoles, en même temps, quelques ouvertures à la psychosociologie, mais il y a aussi pas mal, et je n'en ai pas parlé dans mon exposé ni mon collègue, il y a aussi pas mal de suivi individuel des étudiants, vous voyez, d'accompagnement des étudiants. Et ça, c'est un point nouveau dans la pédagogie que je trouve extrêmement important et qui méritait d'être dit. Voilà.
Un mot, monsieur Dépincé.
Oui, juste sur le premier point, par rapport à l'ingénierie technique ou l'ingénierie financière, tous les mécanismes au sein de l'ingénierie financière, et je dis bien le mot ingénierie, il y a des mathématiques financières. Et nos ingénieurs, ont apporté énormément d'éléments à ce niveau-là, que ce soit de modéliser les phénomènes intervenant aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue financier, d'être capable de les analyser, de mettre des modèles derrière, de faire des prévisions et tout ça. À ce niveau-là, il y a un travail qui relève du domaine de l'ingénieur. Donc pour moi, il n'y a pas de différence et on forme dans un certain nombre d'écoles. Vu que nos étudiants sont brillants, brillants d'un point de vue mathématique et pour manipuler les concepts, ils ont tout à fait leur place dans ces branches de l'ingénierie. Pour le deuxième point, concernant l'ouverture des écoles à d'autres champs disciplinaires que les sciences et techniques, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on ouvre nos écoles à tout ce qui est connaissance du monde de l'entreprise au sens large, donc en abordant des aspects sociétaux, donc au niveau de l'entreprise, en ouvrant sur des aspects psychosociaux et en faisant pour tous nos... Enfin, là, je vais parler de l'école que je suis un peu plus, on a le groupe des écoles, parce qu'on suit au niveau du groupe des écoles centrales une pédagogie qui est similaire, on se rencontre régulièrement avec nos collègues, on a des accompagnements individualisés de chacun de nos élèves. et on les accompagne dans leur démarche, on les accompagne dans la formation de leurs projets professionnels, on fait des debriefings suite aux expériences qu'ils ont vécues au niveau des stages et à leur premier rapport avec le milieu industriel. Donc on les ouvre au-delà de l'aspect purement scientifique et technique.
Bien, ben nous allons vous remercier. Merci, bonsoir, et puis demain...